Bonjour et bienvenue dans Back Channel, le podcast consacré aux coulisses de la politique internationale. Phoenix, vous êtes romancier, spécialiste du renseignement, et vous commentez l'actualité stratégique sur l'Ukraine, la Russie, le Proche-Orient et l'Asie. Pour ce 12e épisode, je voudrais parler de l'affaire Pavel Durov.
Bonjour Laura.
Bonjour Phoenix. Le 24 août, Pavel Durov, le fondateur de la messagerie Telegram, a été interpellé à l'aéroport du Bourget. Il était accompagné d'un garde du corps et de sa compagne. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt en France. Le 28, il est mis en examen et remis en liberté avec interdiction de quitter le territoire français contre une caution de 5 millions d'euros qu'il n'a visiblement pas encore payée. Phoenix, pourquoi vous intéressez-vous toujours à cette affaire? Ça s'est passé il y a 3 semaines. Il visite Paris avec sa copine. Et alors?
Parce qu'on en sait encore très peu et que récemment, il a commencé à parler. D'abord, il aurait, selon Libération, déclaré aux policiers que des agents de la DGSE sont venus le voir à Dubaï pour aborder des sujets classés secret défense. Il disposerait aussi d'une ligne directe avec la DGSI dans le cadre de l'antiterrorisme, et il aurait aussi, selon le Figaro, accepté de supprimer la fonction nearby qui était la plus controversée au sein de Telegram. Il a aussi accepté de renforcer la modération sur les plateformes, qui de toute façon était quasiment inexistante, et de lever l'anonymat de certaines adresses IP. Au total, il ne faut pas oublier que ce sont 10 000 procédures qui ont déjà été engagées contre Telegram depuis pas mal d'années, la plupart, et de plein de pays du monde, et la plupart restées sans réponse. Enfin, il respecte son contrôle judiciaire, sachant qu'il doit se présenter au commissariat 2 fois par semaine. Il n'a donc pas essayé de prendre la fuite.
Vous nous rappelez les circonstances de son arrestation et de son contrôle judiciaire ?
Bien sûr. Pavel Durov a été arrêté le 24 août dans la nuit à l'aéroport du Bourget. Il était à bord d'un jet privé, son jet privé, et il arrivait de Bakou, où, paraît-il, qu'il souhaitait rencontrer Poutine, or la rencontre n'aurait pas eu lieu. Pourquoi ? On ne sait pas. Ensuite, il comptait faire escale à Paris pour un dîner d'affaires. Il était accompagné de Yulia Vavilova, qui est sa petite amie d'une quinzaine d'années plus jeune que lui. C'est une influenceuse basée à Dubaï qui est une spécialiste des crypto-monnaies et qui visiblement adore utiliser Instagram. Au passage, ce serait justement ces clichés Instagram qui auraient permis d'apprendre l'itinéraire de son compagnon et de l'arrêter lors de son passage à Paris. Alors, après 4 jours de garde à vue dans les locaux de l'ONAF, c'est-à-dire l'Office National Antifraude des Douanes, il a été transféré à la justice le 28 août. Là, le juge d'instruction a validé les 12 chefs d'inculpation avancés par le parquet et l'a mis en examen. Parmi les 12 infractions, on notera surtout la complicité de détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pédopornographique, la complicité d'acquisition, transport, détention, offre ou cession de produits stupéfiants, etc. Et, pour ajouter à ça, le 28 août, une enquête aurait également été ouverte pour violence grave à l'encontre de l'un de ses enfants.
Pourquoi en France ? Telegram est une plateforme globale de près d'un milliard d'utilisateurs.
La justice française dispose d'une loi unique au monde. On l'appelle la LOPMI, c'est-à-dire la loi de programmation et d'orientation du ministère de l'Intérieur, qui est entrée en application en janvier 2023. La disposition de la loi qui nous intéresse, c'est celle qu'on appelle le délit d'administration illicite d'une plateforme en ligne. C'est majeur parce que depuis 25 ans, comme on le sait, les grands acteurs Internet expliquent qu'ils sont juste des facilitateurs, des intermédiaires, des fournisseurs de logiciels, ce que vous voulez. Mais quand il y a des activités terroristes, criminelles, pédophiles sur la plateforme, alors là, ça n'a jamais rien à voir avec eux. Ils ne peuvent pas être tenus responsables, donc on doit les laisser tranquilles. À un moment, la justice française en a eu assez, elle a décidé d'agir, et on l'a dotée d'une loi qui pourrait relever ce défi. La loi a eu son baptême du feu judiciaire en juin à la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris à propos de l'administration d'un canal Telegram. Ça devait être suivi en septembre d'ailleurs par l'examen d'un cas de pédopornographie. Avant ça, la section J3 du parquet de Paris, qui est dédiée à la cybercriminalité, avait commencé une enquête préliminaire sur Telegram en février 2024. Les autorités françaises avaient fait de multiples requêtes restées sans réponse, Telegram ayant la réputation de ne coopérer avec aucune des autorités gouvernementales. Durov s'en vante sans arrêt, il peaufine ainsi son look de libertarien défenseur des droits privés contre l'ingérence des États. Ça fait vraiment partie de son positionnement. De plus, il se croyait évidemment protégé, sauf qu'il ne l'était pas assez.
Vous pouvez nous parler de Telegram ?
Bien sûr. Donc Telegram, à peu près 1 milliard d'abonnés, C'est avant tout une messagerie cryptée, mais on peut aussi parler de plateformes de médias sociaux, à l'instar de Facebook, ou Meta plutôt, TikTok, X, etc. La société était fondée par Pavel Durov et son frère Nikolai. Ça venait après la revente de V-Contact, sa première aventure entrepreneuriale. Une entreprise que d'ailleurs j'avais croisée à l'époque. Il avait été forcé par le Kremlin de vendre V-Contact à un allié de Poutine, qui était le patron de Mail.ru, qui est la plus grosse boîte de messagerie en Russie, et qui s'appelle Alisher Ousmanov. C'était déjà sulfureux pour sûr, ça n'empêchait pas les grandes sociétés occidentales de le courtiser, ou alors le Mobile World Congress de Barcelone de lui réserver un traitement de rockstar quand il est passé en 2016, par exemple. Or, si Telegram est une messagerie cryptée, c'est aussi un grand bazar devenu presque plus populaire que le Darknet pour la vente d'armes, prostitution, jeux, pédophilie, etc. Une pléthore de faits relevant tous du crime organisé. Ce qui est également très suspect, c'est le financement de Telegram. Durov a reçu 400 millions de dollars pour la vente de V-Contact, ce qui d'ailleurs au passage n'est pas une pitance, parce que si le Kremlin a l'habitude de voler les sociétés privées pour ensuite les redistribuer à ses amis, contrairement à beaucoup d'oligarques qui se sont fait dérober leur société par le Kremlin, 400 millions, c'est finalement assez convenable. Dès 2017, Durov voulait lancer une crypto-monnaie, il aurait... afin de financer notamment Telegram, il aurait ainsi dominé le marché en partie grâce aux reach de Telegram et il a levé 1,7 milliard de dollars en vendant des tokens que l'on appelle Gram.
Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Peu après la levée, la SEC, l'autorité des marchés américaine, qui est toute puissance aux États-Unis, lui a intenté un procès. Il l'a perdu et il a dû rendre tout l'argent aux investisseurs. Donc à ce moment-là, il est face à un vrai problème. Les coûts annuels de Telegram sont une fonction du nombre d'utilisateurs. C'est-à-dire qu'en 2024, avec à peu près 1 milliard d'abonnés, on estime ses coûts à environ 600 milliards de dollars. Or, ses revenus de 2024 sont, eux, estimés à 160 millions de dollars. Ça fait donc une perte de 458 millions de dollars sur une année. La question, c'est comment finance-t-il cela ? D'un côté, il explique qu'il est le libertarien russe, une sorte d'Elon Musk russe, qui n'a rien à voir avec le Kremlin, que quand il est parti en 2014, eh bien, il avait même écrit un article qui était « 7 raisons de ne pas revenir en Russie ». Il refuse de collaborer avec les autorités du monde entier afin de protéger la confidentialité des données de ses abonnés. Et de l'autre, il va frapper à la porte des amis de Poutine pour trouver de l'argent. Or, le président russe n'a pas l'habitude de donner de l'argent sans contrepartie. Donc pour se financer, Pavel Durov émet des obligations. Et voici un peu un extrait de la liste de ces investisseurs que je me suis procuré. On a donc Roman Abramovich, bien sûr très connu, Sergei Solonin, David Yakovbashvili, on a des institutions financières telles russes, telles que VTB Capital, Alpha Capital, on a Dimitri Yeremeev, qui est un banquier qui soutient les actions de la Russie contre l'Ukraine, que des cronistes du gouvernement russe en gros. Plus, on a aussi des Émiratis. On a une société qui s'appelle Mubadala, c'est une entreprise qui investit beaucoup dans, surprise, surprise, les infrastructures russes. On a ensuite Abu Dhabi Catalyst Partners. Ça, c'est une JV entre Mubadala et un fonds américain qui s'appelle Falcon Edge Capital, qui est cofondé par un monsieur se nommant Rick Jerson, qui, lui, apparaît dans l'enquête de Robert Mueller, on se rappelle, celui qui a enquêté pendant 3 ans sur le fameux dossier russe concernant l'ingérence possible dans l'élection de Donald Trump en 2016. Et donc ce monsieur Rick Jason serait l'intermédiaire en 2016 entre l'équipe de campagne de Trump, les Émiratis et la Russie. Et ce n'est pas tout. On parle de sociétés pour Telegram, de sociétés relocalisées à Dubaï. Mais paraît-il que quand des journalistes se déplacent pour aller visiter les locaux, parfois les locaux sont vides. Donc, j'ai pas été vérifié, je ne fais que reprendre certaines sources, mais ce qu'on entend aussi, c'est que la majorité des serveurs seraient localisés en Russie. Donc, contrairement à la légende de sa relocalisation, les employés aussi seraient localisés en Russie. Et la liste continue.
Où voulez-vous en venir ?
Je ne peux rien prouver, mais si le Kremlin voulait développer un outil d'influence partout dans le monde, donc par exemple une plateforme ou un réseau social qui compte 1 milliard d'utilisateurs, qui est également une messagerie cryptée, il ne s'y prendrait pas d'une autre façon. D'autre part, personne, pas même l'entrepreneur le plus fou, ne peut supporter un ratio coût-chiffre d'affaires pareil. Donc on a bien un service qui est parfois une menace pour la sécurité des citoyens et la sécurité nationale de nombreux États, un service qui perd des sommes colossales, qui est financé par des mystérieux investisseurs, dont la majorité sont liés d'une manière directe ou indirecte au Kremlin. Vous en pensez quoi ?
Oui, en effet, c'est carrément louche. Et Pavel Durov, vous pouvez nous en parler ?
C'est la version russe de l'entrepreneur de la Silicon Valley. Il est beau, il est jeune, milliardaire, bodybuildé, il ne vieillit pas. Si vous regardez ses photos d'il y a 10 ans, il a exactement la même tête. Il dispose de 4 passeports, un passeport russe évidemment, mais il a aussi un passeport de Saint-Kitts et Nevis dans les Caraïbes, un passeport émirati et un passeport français, et on va en reparler. Il vit la plupart du temps à Dubaï, mais il voyage beaucoup. Il passe à Paris, à Londres, à Bakou. Maintenant, le plus intéressant, c'est évidemment sa relation avec la Russie. Donc l'histoire officielle, c'est que la police aurait surgi chez lui en 2011 à Saint-Pétersbourg pour le forcer à remettre les données privées d'Alexeï Navalny. Après, il y a eu pas mal d'autres événements. Et finalement, en 2014, un peu avant l'annexion de la Crimée, il aurait refusé de donner les infos privées des opposants ukrainiens. Et que ce serait pour ça qu'il aurait été limogé de son poste de PDG de V-Contact, qui était son business de l'époque, et qu'il aurait donc dû le vendre à un ami de Poutine. Après quoi, il quitte la Russie en promettant de ne pas y remettre les pieds. Le problème, c'est que selon Important Stories, en anglais, c'est un média d'investigation basé à Riga, en Lettonie, il aurait été plus de 50 fois en Russie depuis le début de son soi-disant exil. Ça, ils l'ont déterminé en analysant une des plus grosses violations de données du renseignement russe, donc du FSB, il y a quelques années. Et l'une de ces occasions correspond justement au jour où le Kremlin a arrêté de vouloir s'en prendre à Telegram. C'est quand même intéressant, non ?
Quand les Français ont arrêté Durov, ça a suscité une vague d'indignation un peu partout dans le monde, mais notamment en Russie. Pourquoi ?
C'est encore une autre facette de cette affaire. Telegram est complètement imbriqué dans le fonctionnement de toute la société russe et aussi de son appareil militaire, et principalement de son appareil militaire. C'est un outil de propagande, c'est là où les blogueurs militaires russes qui ont beaucoup d'influence, parce que eux ne sont pas soumis à la censure, sauf quand évidemment ils critiquent trop le Kremlin, c'est là où les blogueurs militaires russes communiquent, c'est là où l'appareil de désinformation russe crée ses canaux, propage des fake news, c'est aussi là où le FSB recrute des informateurs, où l'armée recrute des mercenaires, et où Wagner trouvait ses soldats pour les envoyer en Afrique. Mais c'est surtout, et ça c'est essentiel, c'est là où ont lieu une grande partie des communications militaires russes.
Vraiment ?
Oui, on se souvient qu'au début de la guerre, donc commencé le 24 février 2022, les Russes disposaient de téléphones ERA, c'était soi-disant indéchiffrables. Mais que, comme les Tchétchènes, donc les Kadyrovsi envoyés par Kadyrov, détruisaient les tours 3G en Ukraine, les Russes devaient acheter des cartes SIM locales, ce qui a conduit à beaucoup d'interceptions de communication par les Ukrainiens, ce qui permettait notamment aux Ukrainiens ensuite de viser les postes russes qui utilisaient ces cartes SIM locales. Donc, les communications militaires, sauf finalement, sont sur Telegram, parce que le chiffrement de Telegram est meilleur. Au moment de l'arrestation de Durov, certains blogueurs russes ont même parlé de l'arrestation du chef des communications de l'armée russe. Donc, le Kremlin croit que la France a fait ça pour avoir accès à toutes les clés de chiffrement de Telegram, et ce, dans un but militaire et de renseignement. Mais il n'y a pas que les Russes. Les Ukrainiens font pareil, eux aussi utilisent Telegram, même s'ils se méfient. Donc, Macron a même dû rassurer les Émiratis au lendemain de l'arrestation de Durov et leur rappeler que la justice française était indépendante.
Et après le cadre juridique, la personnalité de Durov, ses liens avec le Kremlin, le financement obscur de Telegram, si on parlait de la connexion française.
Oui, et ça c'est évidemment une facette plutôt croustillante. On a en effet le droit de se demander pourquoi la France a donné la nationalité française à Pavel Durov. Par exemple, je voudrais le rappeler, après les attentats de 2015, la police apprend que les djihadistes se sont coordonnés via Telegram. En plus, Dourov, à l'époque, accuse la France d'être derrière les attentats. Puis il continue, il accuse la France de prendre les impôts des Français pour mener des guerres inutiles et de créer un paradis social parasitique, pour reprendre ses mots, pour les immigrés d'Afrique du Nord. Bon, ça, c'est de la propagande russe classique. Et ça vient après son soi-disant exil, donc évidemment, de nouveau, on peut se poser des questions sur sa soi-disant indépendance vis-à-vis du gouvernement russe et du Kremlin. De plus, selon le Wall Street Journal, les services de renseignement français, qui eux aussi, depuis des années, se doutent de quelque chose, auraient travaillé il y a quelques années avec les Émiratis de façon à piéger son téléphone. Voici un peu le niveau de confiance. Et bien c'est cette personne à qui le président Macron a décidé d'octroyer la nationalité française. En effet, Macron, lui, le rencontre à plusieurs reprises dès son arrivée à l'Élysée, probablement par l'intermédiaire de certains de ses conseillers, qui sont tous des enthousiastes numériques et des enthousiastes de la French Tech, évidemment, et de son grand ami Xavier Niel, qu'on ne présente plus. Donc, selon certaines sources, le président lui aurait même proposé d'installer Telegram, qui est tout de même le caravansérail de la vente d'armes et de la pédophilie, à Paris. Pourquoi pas ? Dourov refuse, et Macron lui octroie, quand même en 2021, la nationalité française. Cela contre l'avis d'à peu près tout le monde, la justice, la police, le renseignement, le Quai d'Orsay, etc.
Et au final, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je crois que certains pourraient se poser la question des liens véritables unissant Pavel Dourov et le Kremlin. L'autre possibilité, moins sombre, c'est juste qu'il mange à tous les râteliers, ce qui n'en est pas moins dangereux.
Et pourquoi est-il venu en France s'il savait qu'il était en danger ?
Je pense que Dourov, évidemment, savait qu'il pouvait être interpellé en France, mais il est venu se jeter dans la gueule du loup parce que, sûrement, qu'il se croyait protégé. À mon avis, il y a eu un jeu trouble entre l'Élysée d'une part, Macron qui ne veut évidemment pas perdre la face, la DGSE qui probablement voulait faire de Dourov un informateur ou une source, et la justice française qui, elle, essaie de faire son travail.
Et la date de l'interpellation ?
Là aussi, j'ai une opinion. Pour moi, il n'est pas anodin que l'arrestation intervienne fin août, au moment où Macron est très affaibli, les Jeux Olympiques sont loin derrière nous, il y a évidemment les Paralympiques qui sont là. On a un gouvernement démissionnaire déjà depuis un mois et demi. Et on a aussi la certitude, depuis quelque temps, qu'il n'y aura pas de Premier ministre NFP. Les policiers ont dû se dire que c'était le bon moment. Finalement, quand il n'y a plus de gouvernement, les services de l'État peuvent faire leur travail en toute indépendance.